Et c'est le journal de Kevin Dufraîche.
Bonjour à tous.
Bonjour Kevin. À la une ce matin, vaccination à jour ou test négatif récent, le pass sanitaire est désormais obligatoire au musée, au cinéma ou encore au camping. Reportage à suivre. Et on vous explique aussi comment vont marcher les contrôles. Les autres titres, Kevin.
Les cas de Covid explosent, pas les hospitalisations, en tout cas pas pour l'instant, mais dans les hôpitaux. On craint la quatrième vague au mois d'août quand beaucoup de soignants sont en vacances. Dans ce journal encore, un des téléphones personnels d'Emmanuel Macron ciblé par le Maroc via Pegasus. Le président utiliserait plusieurs portables non sécurisés. Pluie diluvienne et inondation dans le centre de la Chine. Au moins 12 morts et un barrage qui menace de céder. Et puis Gaspard sans Xavier, la moitié du duo électro Justice Gaspard Auger dévoile son premier album solo.
Les invités de la matinale de France Inter à 7h50. Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Il est l'un des plus fervents opposants au texte du gouvernement sur l'extension du pass sanitaire. Et puis à 8h20, le projet Pegasus, vous le savez, le téléphone portable du président Macron a été ciblé par le Maroc qui aurait tenté de l'espionner. Ce qui est sûr, c'est que c'est inquiétant et que ça interroge. Quel est le degré de sécurité numérique du chef de l'État? Trois invités dans le grand entretien. Étienne Meignier, chercheur en sécurité à Amnesty International. François de Rugy, député de la majorité qui a lui-même été plusieurs fois attaqué. Et Jacques Monin, le directeur de la cellule investigation de Radio France, qui sera aussi avec nous dans le journal. Vos questions, vos réactions, bien sûr, au 01 45 24 7000, le standard est ouvert.
France Inter. Au ciné, au musée, à la bibliothèque, comme chez Mickey, jamais sans mon QR code, c'est désormais la règle. Passe sanitaire obligatoire dans tous les lieux de culture et de loisirs qui rassemblent plus de 50 personnes à partir d'aujourd'hui. Il vous faut présenter un certificat de vaccination complète contre le Covid ou un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures. Une mesure qui concerne aussi les campings, du moins tous ceux qui ont une piscine ou une salle de spectacle, soit 4000 établissements dans toute la France. Au courant depuis lundi soir seulement, il a donc fallu s'organiser. Reportage au camping du Grand Paris dans le Val d'Oise, signé Marion Ferrer.
Bonjour, je vous appelle, vous avez une réservation chez nous du 21 au 23.
Sylvie ne quitte plus son téléphone.
J'en ai 111 à appeler.
Elle est responsable de l'accueil et tente de prévenir rapidement tous les futurs vacanciers des nouvelles mesures.
Pour le pass sanitaire, donc au niveau du camping, il sera obligatoire.
Des clients qu'il faut rassurer et même guider dans les démarches. Pas question pour Philippe Vinvert, le directeur, de refuser une personne à l'entrée de son camping.
Moi, ça me paraîtrait inconcevable de dire à la personne « Non, on ne peut pas vous recevoir ». Et ben dans ce cas, on prendra la personne, on lui indiquera une pharmacie ouverte pour aller faire un test, quitte à l'accompagner. Mais c'est vrai qu'on a quand même une grosse appréhension.
Quant à savoir comment contrôler ses passes, le responsable l'admet, c'est encore un peu flou.
Après, est-ce qu'il faut télécharger, est-ce qu'il faut flasher? Est-ce qu'il faut faire une photocopie d'attestation? J'en sais rien.
Mais il l'assure, tout sera prêt ce matin. Une fois le pass sanitaire validé, les campeurs pourront enfin souffler. Un bracelet au poignet leur donnera accès à toutes les activités, piscines, jeux gonflables, terrains de sport. Possibilité également de quitter le camping, d'y revenir, et cette fois sans présenter de nouveaux tests.
Marion Ferrer, et c'est donc aux responsables des établissements concernés de contrôler les passes sanitaires en scannant les QR codes avec l'application Tous Anti-Covid Vérif. Mais comment ça marche, Thibault Lefèvre ?
Même logo et même couleur, bleu, blanc, rouge, que Tous Anti-Covid. La seule différence, c'est un cadre blanc qui a été ajouté à la nouvelle application. L'utilisation est très simple. À l'ouverture, il faut appuyer sur un bouton, puis effectuer la mise au point sur le QR code de l'usager contrôlé, qu'il soit présenté sur écran ou sur papier. Et enfin, vérifier les informations qui s'affichent, le nom, le prénom, la date de naissance et surtout le statut. C'est vert pour un pass sanitaire valide et rouge dans le cas contraire. Pas de données confidentiel donc. Il est par exemple impossible de savoir si la personne est vaccinée, si elle est guérie du Covid ou si elle a effectué un test dans les 48 heures. L'application est téléchargeable sans restriction et pourtant, seuls les organisateurs d'événements culturels accueillant plus de 50 personnes peuvent officiellement l'utiliser. Il faut d'ailleurs valider un certificat sur l'honneur avant d'y avoir accès et en cas d'usage inapproprié à la maison par exemple ou au bureau, la loi prévoit une peine d'1 an de prison et 45 000 euros d'amende.
Thibault Lefèvre. Et pour rappel, ce pass sanitaire, il sera élargi à partir de début août dans les restaurants, les bars ou encore les trains. Pour les adolescents, les 12-17 ans, le délai est allongé jusqu'au 30 août. Ça pourrait finalement aller jusqu'au 30 septembre. Les députés ont voté la mesure en commission hier. Ce sera débattu et voté cet après-midi en séance plénière à l'Assemblée. Et puis les personnes totalement vaccinées ne sont plus obligées de s'isoler pendant une semaine si elles sont cas contact. En cas de test négatif, bien sûr, si c'est positif, quarantaine obligatoire de 10 jours. Alors que se met en place le pass sanitaire censé freiner le variant Delta, le nombre de cas de Covid explose en France. Plus de 18 000 enregistrés hier, 3 fois plus qu'il y a une semaine. Et dans les hôpitaux, ça ne se ressent pas encore, mais les admissions remontent doucement. Hier, 61 patients sont entrés en réanimation contre 37 il y a une semaine, ce qui fait craindre aux soignants une quatrième vague en plein mois d'août. Alice Cachaner.
Pour l'heure, les services de réanimation sont loin d'être débordés, mais la hausse des nouvelles hospitalisations risque de se renforcer dans les semaines à venir, anticipe Stéphane Gaudry, professeur de médecine intensive réanimation à l'hôpital Avicenne de Bobigny.
On s'attend à ce que d'ici 2 semaines, on commence à voir arriver à nouveau des malades en réanimation sur des formes graves du Covid.
D'après certaines modélisations de l'Institut Pasteur, la pression sur les hôpitaux pourrait devenir importante dans le courant du mois d'août. Une période de tension car il y a moins de personnel dans les services.
Comme tous les mois d'août dans les hôpitaux, on réduit le nombre de places dans les services, environ de 20 à 30% des places qui sont fermées pour pouvoir permettre aux soignants de se reposer et puis d'aller en vacances.
Contrairement aux vagues précédentes, on ne pourra pas rappeler les équipes durant leur congé, estime le médecin Stéphane Gaudry.
La mobilisation des soignants, ça ne sera pas possible. Il y aura des difficultés parce que les gens, ils en ont marre, ils veulent partir en vacances avec leurs enfants, parce qu'ils n'ont eu aucune reconnaissance lors de la 3e vague. On verra comment on peut se débrouiller. On a des capacités d'absorption quand même importantes. Hein. Mais encore une fois, il faudra faire avec le fait qu'on aura moins de soignants parce que les soignants seront aussi en vacances.
Reste à savoir si la vaccination permettra d'éviter un afflux massif de patients dans les services de réanimation cet été.
Alice Cachaner, est face à la reprise forte de l'épidémie, un nouveau conseil de défense sanitaire a lieu ce matin. Y aura-t-il de nouvelles restrictions peut-être dans certains départements? Réponse de Jean Castex, invité de TF1 à 13h, le Premier ministre qui fera aussi le point sur le projet de loi sur les nouvelles mesures de lutte contre le Covid.
Le Maroc a-t-il mis Emmanuel Macron sur écoute?
L'un des smartphones du chef de l'État a en tout cas été ciblé par une agence de renseignement du Maroc pour une possible infection avec le logiciel espion Pegasus dont on vous parle depuis le début de la semaine au travers des révélations de France Inter avec la cellule investigation de Radio France et qui font partie d'un consortium international de journalistes créé par Forbidden Stories. Emmanuel Macron a plusieurs téléphones personnels, tous ne sont pas cryptés. Et ce qui frappe dans cette affaire, Jacques Monin, c'est que l'Élysée semble avoir fait preuve d'une certaine légèreté sur les mesures de sécurité.
Selon nos informations, l'ANSSI, l'Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, et la DGSI, le renseignement intérieur, ont prévenu Emmanuel Macron qu'il valait mieux utiliser des moyens de communication sécurisés. Il y en a deux, qu'on appelle Théorème et CryptoSmart, mais le président conserve malgré tout plusieurs téléphones portables avec lesquels il communique avec ses proches ou des journalistes sur des messageries du type Telegram. Sauf qu'on l'a vu, pour Pegasus, lire les messageries chiffrées, c'est un jeu d'enfant. Maintenant, les ministres ne sont pas plus prudents. Certes, à l'entrée du Conseil, on laisse les téléphones dans une boîte, mais les décisions et les discussions les plus importantes ont toujours lieu sur les messageries, via donc les téléphones portables. Alors pourquoi une telle légèreté? Un bon connaisseur de l'Élysée nous a dit que tout le monde sait que ce n'est pas prudent, mais il existe un sentiment d'impunité, une idée partagée selon laquelle personne n'oserait pirater le téléphone du président de la République.
Jacques Monin et plusieurs ministres ont également été ciblés, ainsi que l'ancien Premier ministre Edouard Philippe. Toutes les révélations sur Pegasus sont à lire sur franceinter.fr.
Au moins 12 morts dans des inondations dans le centre de la Chine.
Noyé dans le métro de la capitale provinciale du Henan, Zhangzhou, touché par des pluies diluviennes dans la ville de Luoyang à l'ouest, 200 000 personnes ont dû être évacuées car un barrage menace de céder. En Chine, la correspondance France Inter de Dominique André.
Sur les bords du fleuve jaune, le deuxième fleuve le plus long de Chine, Zhangzhou, immense métropole de 12 millions d'habitants, est inondée par des flots d'eau boueuse qui ont envahi les rues. Ces trois derniers jours, la capitale provinciale a enregistré l'équivalent d'une année de pluie. Le bilan humain est provisoire. Piégés dans le métro, envahis par une brusque montée des eaux, les victimes ont été noyées. Sur les réseaux sociaux, on voit des images de passagers debout sur les sièges. Les secouristes ont ouvert le toit des wagons pour les évacuer. Le métro est fermé, 70% des vols et des centaines de trains sont annulés. Des maisons se sont effondrées. L'électricité est coupée dans une grande partie de la ville. Plusieurs barrages et réservoirs d'eau sont surveillés, notamment le barrage de Yiretan, sur lequel une brèche de 20 mètres est apparue et qui menace de s'effondrer à tout moment, selon les autorités locales. L'APL, l'armée chinoise, a été déployée sur ordre du président Xi Jinping, qui parle d'inondations extrêmement graves. Pékin, Dominique André, France Inter.
Et en fin de semaine dernière, c'est la Belgique et l'Allemagne qui subissaient des inondations. 200 morts selon le dernier bilan. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues dans les deux pays. Et à l'ouest, c'est le feu qui fait des ravages. La province canadienne de Colombie-Britannique a déclaré l'état d'urgence en raison de la progression rapide de plusieurs incendies alimentés par la chaleur et les vents. Près de 6000 personnes ont été sommées d'évacuer hier. 300 hectares de terre sont d'ores et déjà partis en fumée. Officiellement, l'ouverture n'est que vendredi, mais ça y est, les Jeux Olympiques ont commencé à Tokyo. Début des tournois de sport collectif avec cette nuit le softball, c'est l'équivalent féminin du baseball. Et toujours chez les femmes, à partir de 9h30, heure de Paris ce matin, coup d'envoi des matchs de football. Le basket aussi est olympique, mais cette nuit, il était surtout nord-américain. 50 ans pile après leur premier titre, les Bucks de Milwaukee ont remporté le championnat de NBA en gagnant un quatrième match contre les Suns de Phoenix. Victoire 105 à 98. Enfin, si je vous dis Gaspard Auger, ça ne vous évoque peut-être rien. En revanche, si je vous parle du fait que c'est la moitié du duo Justice, là, ça vous parle sans doute plus. Le musicien sort son premier album solo baptisé Escapade et Mathieu Culeron l'a rencontré.
Après 15 ans de bons et loyaux services auprès de son acolyte Xavier de Ronay au sein du duo Justice, Gaspard Auger part faire une escapade en solo avec dans ses bagages sa passion pour les synthés, les chorales et les musiques de films.
C'est un disque qui est assez varié mais qui en même temps est jamais abstrait ni expérimental. Enfin, c'est pas du free jazz, c'est pas du prog rock, c'est pas de la musique concrète. C'est un disque qui, je pense, a quelque chose d'assez universel parce que c'est des mélodies, c'est des trucs que tu peux chantonner. Et effectivement, t'as des morceaux qui sont plus proches de l'esprit disco qu'on aime aussi avec Justice.
Escapade est un disque hors du temps et des tendances. L'occasion pour Gaspard d'explorer des terrains plus personnels tout en nourrissant ce qui sera le futur album de Justice en attendant une tournée.
Quand ce sera possible, je pense que ce sera assez intéressant peut-être de faire quelque chose avec un orchestre et des chœurs et ce genre de choses. Toutes ces expériences de studio récentes sont assez positives pour le prochain disque de Justice en fait. Je pense qu'on est un peu moins autarcique qu'on l'a été par le passé.
Gaspard Auger sort un disque discrètement épique, un album d'électro énervé mais de l'intérieur, un space opéra façon soviétique, une nouvelle planète à explorer dans la galaxie Justice.
Et voilà, le studio 511 de la Maison de la Radio transformé en boîte de nuit grâce à Gaspard Auger.
N'exagérez pas.
Escapade, c'est à écouter partout et à danser, évidemment.
Merci, Kevin Dufraîche. On vous retrouve quand même à 9h.
À tout à l'heure.
Bien, à suivre le Zoom de la rédaction.